Radio Barque, donc, comme je le disais, notre troisième partie avec comme invité David Granel, tête de liste pour la liste qui s'appellera Narbonne 21. C'est bien ça, monsieur Granel, bonjour.
Bonjour et meilleurs vœux à vous et à l'ensemble de vos auditeurs et de vos auditrices, et plus généralement les Narbonnaises et les Narbonnais. Oui, Narbonne 21, Narbonne vers le 21e siècle. Oui, je serai tête de liste et je parle ici en tant que candidat au poste de maire de Narbonne.
Oui, voilà, je pense que c'est clair. En tout cas, vous l'avez clarifié, David Granel, dans le cas où ça ne l'aurait pas été pour tout le monde. Alors, votre liste Narbonne 21, c'est le nom exact, hein, c'est bien ça ?
C'est le nom du collectif, oui, qui porte la liste, bien sûr.
Voilà. Parfois, certains lui attribuent l'étiquette macronienne, une chose que peut-être vous n'acceptez pas dans son entièreté. Peut-être aussi parce qu'il y a la présence de Monsieur Perea, le député. Vous confirmez qu'il est présent sur cette liste ?
Je confirme deux choses. Oui, nous avons le soutien du parti majoritaire national, du parti présidentiel. Nous ne sommes pas la liste de ce parti-là, mais nous sommes simplement soutenus par ce parti. Ce parti sera représenté comme d'autres mouvements au sein de la liste, et effectivement via le chef de file qui a été désigné par les instances de ce parti pour intégrer la liste, et aussi par la présence d'Alain Perea, député de l'Aude.
Oui, c'est une présence apparemment qu'il veut ou qu'il a voulu discrète. On en parle peu, est-ce que je me trompe ?
Ce n'est pas une présence discrète. Alain Perea est membre actif de notre collectif. Il apporte son savoir-faire, son savoir-être, ses contacts, notamment ses entrées au national, qui peuvent nous aussi nous aiguiller et aussi faire rayonner Narbonne au-delà des frontières de la Robine et du Pas du Loup. Quoi.
Voilà, donc vous confirmez, il sera bien présent. En position définie ou pas encore ?
Non, encore les positions ne sont pas définies. Notre équipe est quasiment constituée. Ensuite, l'ordre de la place interviendra dans les prochaines semaines lorsqu'il y aura une présentation officielle.
Oui, et la présentation donc définitive de l'ensemble de la liste, est-ce que vous avez fixé une date ?
Nous n'avons pas fixé de date, mais très certainement elle aura lieu début février.
D'accord, voilà. Certains, je pense que Nouveau-Narbonne prépare sa présentation prochainement. Je ne sais pas du côté de Monsieur Sainte-Cluc, qui sera présent à ce micro, vous en doutez également prochainement. Bref, en ce qui vous concerne, ça sera début février.
Mais à aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'élaboration du projet que nous allons proposer aux Narbonnais. Ensuite, qui l'incarnera, qui le représentera, pour moi, c'est relativement secondaire. Du moment que toute l'équipe travaille sur un projet qui soit fort, qui soit porteur d'avenir pour Narbonne et qui soit partagé par tous, parce que notre objectif c'est de parler à l'ensemble des Narbonnaises et des Narbonnais, à l'ensemble des acteurs du territoire, et non pas faire une politique pour un clan, pour un parti ou pour un groupe de pression, quel qu'il soit. Donc du coup, là, nous voulons porter ce message, un message fort, un message à la fois avec une valeur. Un message authentique. Voilà, c'est une liste élaborée par des Narbonnais de souche, de cœur, mais quoi qu'il arrive, des Narbonnais qui sont ancrés dans leur territoire. Et ces Narbonnais-là, qui seront les 45 noms que nous présenterons, porteront ce projet-là. Ensuite, l'ordre des 45 noms, il viendra le moment venu lorsque l'échéance approchera par rapport à la déclaration en préfecture.
Mais David Granel, vous savez très bien quand même que les électeurs adorent les noms, comme ils disent, les noms des personnalités. Ils aiment bien une certaine notoriété. Alors, on a évoqué donc Alain Perea, le député En Marche qui est élu. Je crois qu'il y aura Madame Sabine Flautre qui est actuellement conseillère d'opposition à Narbonne. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça, ne serait-ce que, si vous me permettez l'expression, pour mettre l'eau à la bouche.
Mais il y a d'autres noms, des personnes qui ont déjà fait des sorties presse. Je pense à Caroline Olivas-Guissé, qui était jusqu'à il y a un mois et demi en arrière, adjointe notamment en charge de l'urbanisme de la ville de Narbonne. Donc c'est quelqu'un aussi qui maîtrise les dossiers. Ensuite, non, c'est pas une liste people que nous voulons présenter. Nous, ce sont vraiment des Narbonnais qui sont ancrés sur le territoire, qui sont pas connus ou pas connus, non. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire, qui ont aussi un réseau, qui ont fait leurs preuves et qui ont cet amour pour Narbonne et pour l'avenir de notre territoire, pour que bien grandir et bien vieillir à Narbonne soit vraiment une réalité. Moi, je veux des personnes qui ont Narbonne chevillé au corps pour faire passer leur projet et faire rayonner Narbonne pour que le sentiment de fierté narbonnaise soit partagé par la plupart des Narbonnais.
Oui, alors pas de star system dans votre...
C'est pas l'objectif, et c'est pas comme ça qu'une ville sort d'un relatif état somnolent et qui ne porte pas des valeurs. Voilà, on n'est pas là pour faire du spectacle. Le spectacle, il y a l'aréna pour faire le spectacle. Le conseil municipal, ça doit être sérieux.
Alors, à propos de l'aréna, justement, vous n'ignorez pas, David Grenelle, que sa construction a été très contestée. Aujourd'hui, l'aréna est là. Apparemment, les premiers spectacles sont un succès. Si demain vous êtes élu maire, quelle sera votre position vis-à-vis de cette aréna? D'abord, vous, est-ce que vous l'aviez soutenu ou est-ce que vous le contestiez?
Le projet d'aréna, salle multimodale, mini zénith, peu importe le nom qui a changé au fur et à mesure des années qui sont passées, ce projet-là ne m'a jamais posé souci en tant que tel, en tant qu'équipement structurant pour la ville de Narbonne. Pourquoi pas. Je n'étais pas un fan absolu de cet équipement-là, mais bon, s'il y en avait la nécessité parce qu'il y avait un réel besoin, pourquoi pas. Donc, du coup, l'aréna est là. Ensuite, là où je m'étais opposé en temps et en heure, notamment au début du projet, au début du mandat, c'était par rapport au mode de gestion de l'aréna. L'aréna, cette salle-là,
pour moi, délégation de service public, vous voulez dire?
Pas forcément la délégation, et surtout, pour moi, c'est un projet qui devait être porté à minima via l'échelon intercommunal.
Ah oui, voilà. Alors ça, c'est un autre problème.
Mais pour moi, au départ, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que ce n'était pas à simplement la ville de Narbonne de porter ce projet-là. Bon, l'aréna est là, elle a été faite sur un terrain communal, dans l'enceinte du parc des sports. Moi, en tant que maire de Narbonne, j'assume cet équipement-là. Et bien sûr, la ville de Narbonne continuera à le financer. Nous l'avons. Nous n'allons pas le laisser en zone non aboutie, en zone... voilà. Nous devons justement le porter et le rendre non pas rentable, mais du moins que cet équipement-là ne vienne pas être comme un boulet au moins le mandat qui vient.
Que ça soit véritablement un outil. Alors vous l'avez évoqué vous-même, David Grenelle, et la question inéluctablement se reposera dans les prochains conseils communautaires. Faut-il que cette aréna, qui est aujourd'hui municipale, devienne communautaire? Donc vous êtes pour, d'après ce que vous venez
de dire. La question, il aurait dû être communautaire au départ.
Oui.
Ensuite, qu'il devienne communautaire, à terme, je pense que oui. C'est une nécessité, parce que ça va dans le sens, tout simplement, de l'histoire. Tous ces équipements-là de cette dimension ont vocation à être gérés par un échelon supérieur à la commune. Dans quel timing cela va être fait, pour parler en occitan? Mais pour ça, nous devons le décider, le co-construire ensemble. Aujourd'hui, la ville devra assumer. J'assumerai, en tant que maire de Narbonne, le financement de l'aréna, le temps que la transition se fasse en douceur vis-à-vis du Grand Narbonne. Le Grand Narbonne devra se positionner sur les modalités d'intégration de cet équipement majeur dans son giron.
Oui. Enfin, jusque-là, d'ailleurs, vous ne l'ignorez pas non plus. C'est une question qui a déjà été posée dans les conseils communautaires et qui sera débattue inéluctablement, prochainement, en tout. Alors, quel sera le timing, comme vous dites? On verra. Mais, David Grenelle, donc, revenons à votre programme qui est d'abord municipal, parce que, rappelons-le, pour faire partie de l'agglomération, pour être conseiller communautaire, faut être d'abord conseiller municipal. Donc la loi est ainsi faite. Le souci majeur, c'est l'élection au conseil municipal. Comment démarquez-vous votre liste par rapport aux autres? Quelle singularité ou quelle particularité souhaitez-vous mettre en exergue?
Ce que nous souhaitons mettre en premier lieu, c'est que nous voulons parler à l'ensemble des Narbonnais. Il est inadmissible que la ville de Narbonne soit partagée en deux, via le pont de Carcassonne qui fait une barrière entre deux villes. Il y a un côté du pont, il y a l'autre côté du pont.
Oui, mais alors ça, c'est la géographie, ça remonte à un siècle.
C'est pas la géographie, c'est la manière de considérer les habitants. Je pense que le maire de Narbonne doit être garant de la sécurité de ses habitants. C'est la sécurité physique via la police municipale, mais c'est aussi la sécurité que je peux appeler par rapport à tout ce qui est social. Il est inadmissible qu'à Narbonne, il y ait, selon les quartiers, selon les rues, des gens qui ne vivent pas la ville de Narbonne de la même manière. Tout le monde doit se retrouver sur un projet de ville commun et partagé. Je pense que notre liste, en étant pluripolitique, comme nous avons appelé en début d'interview, en mêlant des gens venant d'horizons différents, a cette capacité de parler à tous les à toutes les Narbonnaises et à tous les Narbonnais.
Oui. Pouvez-vous, David Grenel, être un peu plus précis là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez par tous les Narbonnais des quartiers ne vivent pas la ville de la même façon?
Mais c'est par rapport à l'accès, par rapport aux animations, par rapport au mode de transport. Pour venir en ville, on le voit bien, le centre-ville est relativement privatisé par une certaine frange de la population de certains quartiers. Les animations sont aussi essentiellement tournées vers les barques et autres. Certains quartiers ne sont pas considérés.
Au niveau animation, par exemple.
Au niveau parce animation que, et en termes de services publics. Quand je parle les quartiers, tout ce qui est Réveillon, Roche-Grise et les Hauts-de-Narbonne, ils n'ont même pas une école. Ce sont des quartiers qui sont sans services publics. La ville doit être présente partout, sur tous les quartiers, de Réveillon quasiment jusqu'à Fontfroide et en allant jusqu'à Narbonne-Plage. La présence municipale doit être partout.
Oui, évidemment, une école, c'est très symbolique de la vie dans un quartier.
C'est symbolique et c'est un lieu de sociabilisation. C'est là que les gens se rencontrent, c'est là qu'on échange, c'est là qu'on connaît ses voisins. Parce que dans des quartiers pavillonnaires tels qu'ils ont poussé dans Narbonne depuis ces 20 ou 25 dernières années, ce sont des quartiers dortoirs. Donc, du coup, les gens ne se fréquentent pas.
Oui, donc on comprend que parmi votre programme, il y a la notion d'installer le plus rapidement possible ce genre de service. Nous devons
avoir une présence, les services municipaux doivent être présents sur l'ensemble des quartiers de la ville, et les élus aussi. Les élus ne doivent pas se cantonner à certains quartiers, les bons quartiers qui votent pour eux. Non. Le rôle des élus, c'est d'être présent partout sur la ville, via des présences, des tournées, et être présent au quotidien, aller à la rencontre des habitants.
Oui. Alors, ce que vous dénoncez là, en filigrane, c'est ce qu'on appelle l'électoralisme, c'est-à-dire, vous avez voté pour moi, donc je vous renvoie l'ascenseur. C'est ça que vous voulez dire ?
C'est ça, mais pas forcément que ça. C'est-à-dire qu'on a tendance, depuis quelques années, à se regarder son nombril. C'est-à-dire on a une action que pour son électorat. Et donc, du coup, Narbonne est une ville, malheureusement, qui est vieillissante. C'est-à-dire que la moyenne d'âge ne fait qu'augmenter sur Narbonne. On l'a vu là, au mois de décembre, lors de la journée d'accueil des nouveaux Narbonnais, une large majorité des nouveaux arrivants, ce sont des personnes en retraite. Je n'ai rien contre les retraités, mais il faut que Narbonne aussi accueille toutes sortes de populations, et aussi qu'il y ait des jeunes qui viennent s'installer parce qu'il y a du travail, tout simplement. Et Narbonne, dans l'absolu, perd des emplois. C'est-à-dire que moi, le premier Narbonnais de base, je ne travaille pas à Narbonne. Je rentre tous les soirs à Narbonne, mais non, mais je ne travaille pas à Narbonne. Est-ce que c'est normal? Je ne parle pas de mon cas, mais je parle que, effectivement, Narbonne ne suscite pas l'intérêt à garder ses jeunes. En faire venir d'autres, c'est une autre problématique, mais garder sa jeunesse. Il y a des infrastructures par rapport à tout ce qui est la formation et autres, et ensuite, promouvoir des espaces pour que des entreprises se créent en Narbonne, que ce soit dans le service, les nouvelles technologies ou autres, pour conserver nos jeunes diplômés.
Mais ça, les zones d'activité, les zones économiques, vous le savez, David Grenel, maintenant, c'est de la compétence communautaire et non plus municipale.
Mais bien sûr, c'est pour ça que le projet, notre orientation dans le projet, c'est aussi parler de ce que sera notre futur rôle au sein de la communauté d'agglomération. Car faire parler aux habitants que sur les compétences communales, ça serait les berner, ça serait ne pas leur dire la vérité. Par contre, il faut bien leur préciser, contrairement à ce qui a été fait et contrairement à ce que d'autres font, il faut bien préciser que certains aspects ne pourront être portés que s'il y a une cohésion au sein de la communauté d'agglomération, au sein du territoire, au sein du bassin de vie, au sein du bassin économique.
Ce qui implique donc, alors là vous me tendez la perche David Granel, ce qui implique que vous avez aussi une stratégie, en plus de municipale, une stratégie communautaire, avec en vue peut-être aussi d'éventuelles alliances, si nécessaires, au moment d'élire, de choisir un président du Grand Narbonne.
Mais bien sûr, se focaliser uniquement sur le scrutin municipal serait une erreur majeure. Et nous voyons que depuis 6 ans, nous en payons les frais. C'est vrai, Narbonne, c'est l'agglomération. Mais l'agglomération, c'est aussi Narbonne. Et donc, du coup, en tant que futur élu narbonnais, en tant que futur maire de Narbonne, oui, bien sûr, l'échelon communautaire m'intéresse. Et à ce niveau-là, nous ne devons pas nous regarder entre narbonnais. Nous devons voir par rapport au village, aux communes qui nous entourent, pour porter un projet de territoire, un projet qui fasse rayonner notre territoire, parce que les Narbonnais peuvent travailler dans les communes autour, et les habitants des communes autour travaillent à Narbonne. Donc du coup, c'est ce bassin de vie-là que nous devons porter, ce bassin économique, et oui, le rôle des élus municipaux narbonnais sera d'agir aussi au sein de l'exécutif communautaire, en partenariat avec les différents élus venant des listes élues dans les différentes communes.
De l'ensemble du territoire. Mais alors, quel est votre regard sur les 6 années pratiquement qui se sont écoulées avec, alors je ne reviens pas sur les bisbilles sempiternelles entre la mairie de Narbonne et le Grand Narbonne, mais sur l'action du président socialiste Jacques Bascou. Qu'est-ce que, par exemple, d'imaginer que demain vous soyez président de l'agglo, qu'est-ce que vous garderiez en disant il a bien fait et qu'est-ce que vous changeriez?
Au sein de l'exécutif communautaire, un certain nombre d'avancées ont été faites, bien sûr. Faut bien se rappeler que l'échelon intercommunal est assez récent. La communauté d'agglomération de la Narbonnaise, ça s'appelait la CAN au départ, a été créée en 2002. Donc c'est quelque chose de très très récent.
Et élargi plus récemment
en intégrant d'autres communautés de communes, que ce soit Corbière-Maritime ou plutôt et aussi sur le Minervois. Donc c'est un échelon administratif très très récent qui doit se monter en compétences, doit se développer et doit avoir, disons, un certain nombre de politiques mises en place. Ça a été commencé par Michel Mounier, Jacques Bascou a pris la suite pendant 2 mandats. Un certain nombre de pierres ont été posées. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que l'échelon administratif est conforté, mais nous devons encore aller plus loin par rapport à cette démarche. Et l'intercommunalité doit aussi rendre des services aux différentes communes qui l'utilise. Voilà. C'est-à-dire que l'agglo ne doit pas être non plus déconnecté de la vie des communes.
Et ça vous semble ne pas être le cas aujourd'hui ou pas suffisamment?
Pas suffisamment. C'est-à-dire que l'agglo aurait tendance, disons, à vouloir remplacer les communes, alors que l'agglo doit aussi être au service des communes. Il faut jouer sur les deux tableaux. Ça doit être complémentaire, gagnant-gagnant. L'un ne doit pas disons, puiser les ressources de l'autre.
Tirer la couverture à soi.
Bien sûr, oui. On est là-dessus.
Alors, pour terminer cette interview, David Granel, revenons quand même sur la ville. Alors, Michel Santo, tout à l'heure, ironisait sur le fait que dans vos programmes, alors pas seulement le vôtre, mais celui des candidats, il y a le vélo. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que ça fait partie, vous, la demande de pistes cyclables, ça fait partie de votre programme?
Eh bien, moi, j'ai envie d'être un maire pour tous, pour tous les Narbonnais, pour tous les Narbonnaises, mais aussi un maire pour toutes les mobilités. Et je pense que la mobilité ne doit pas être imposée. Le tout vélo, ça ne peut pas marcher, comme Michel Santo vient de le rappeler. Mais par contre, nous devons offrir, que ce soit l'intercommunalité en charge du déplacement ou la ville par rapport à ses aménagements, offrir la possibilité au maximum de se déplacer comme bon lui semble. Et comme l'air du temps, disons, non pas l'impose, mais disons le promeut. C'est-à-dire que nous devons imaginer et aménager des voies où, effectivement, la voiture ne se fera pas au détriment du vélo et de la circulation piétonne. Nous devons avoir une pluralité de modes de transport pour que chacun s'y retrouve. Moi, le premier, quand je vais travailler, comme j'ai dit, en tout, je fais 14 km en vélo par jour. Mais bon, je prends le train pour aller travailler, mais entre chez moi et la gare, il y a 3 km. Sur ces 3 km, je passe 3 km à faire vraiment sur la voie classique. Une fois que j'arrive, parce que je travaille aussi à Perpignan, quand j'arrive à Perpignan, j'ai 5 km et demi à faire pour me rendre au bureau à la sortie de la gare. Et sur les 5 km, il y a 5 km de pistes cyclables. Mmh. Donc du coup, donc, je vois vraiment la différence.
Narbonne vous semble en retard sur ce
Narbonne point. Est en retard sur un certain nombre d'axes, et notamment les axes. Le vélo ne doit pas être utilisé que pour les balades. Nous devons au quotidien pouvoir l'utiliser, parce que quand on voit que 80% des Narbonnais qui se déplacent le font en voiture, pour des fois faire 1 kilomètre ou deux, qu'ils aient la possibilité de continuer à le faire en voiture, ça doit être une priorité, mais qu'ils aient la possibilité de se déplacer par d'autres moyens de transport doux, ça doit être valorisé.
Voilà. Et on va conclure là-dessus. La présence de l'écologiste Sabine Flautre sur votre liste est probablement un signe aussi de cette volonté de faire une large place à ces mobilités, à ces transports doux, comme on dit.
Au-delà de la présence de personnes, c'est par rapport à nos engagements. Nous avons signé la charte sur la transition écologique, où nous nous engageons à faire de notre programme un axe fort par rapport à cette transition. Je fais aussi partie d'une génération qui est sensibilisée à ces problématiques-là. On voit entre le réchauffement climatique et autres, on s'aperçoit que nous devons aussi changer notre mode de vie, notre mode de consommation par rapport à la ville. Et donc, du coup, nous nous engageons sur des principes forts pour tout en douceur, parce que chacun doit y aller à son rythme. L'écologie punitive n'est pas une bonne chose. Nous devons accompagner et la ville doit montrer l'exemple.
Eh bien, c'est là-dessus que nous allons conclure. Merci, David Granel, d'être venu à ce Radio Barque. D'abord pour présenter votre liste et puis pour entamer aussi cette année 2020. Nous recevrons, alors bien entendu, vos concurrents, si je puis dire, dans les prochains week-ends. La prochaine fois, ça sera Monsieur Didier Mouly pour Nouveau-Narbonne. Après quoi, nous recevrons Nicolas Sainte-Cluc, je cite de mémoire, pour l'Union de la Gauche, tel qu'il l'appelle lui-même, et puis pour le Front National, pardon, le Rassemblement National, Monsieur Darrot, un petit peu plus tard. Merci en tout cas de nous avoir suivis, merci David Granel, et aux auditeurs, à la semaine prochaine.
Merci à vous.